France Culture. Anne Bouillon, bonjour.
Bonjour.
Quatrième temps de nos avoies nues. Dans l'épisode précédent, vous nous avez parlé de votre travail, la façon dont vous œuvrez, la façon dont vous procédez jusqu'à la plaidoirie, ce temps qui monte, la tension qui monte jusqu'à la plaidoirie, qui est un temps très fort. Pour ce quatrième temps, je voudrais vous proposer de parler des femmes que vous défendez, c'est-à-dire de donner la parole aux femmes et à ces récits de femmes, ces récits d'histoires que vous défendez. Comme vous parliez de la plaidoirie dans l'épisode précédent, est-ce que, par exemple, vous vous souvenez, nécessairement vous en avez beaucoup, hein, mais surtout que je crois que vous avez plus de 200, 300, 400 dossiers par an à gérer, mais est-ce qu'il y a quelques plaidoiries qui vous ont particulièrement marqué? Je peux vous aiguiller parce qu'il y en a une qui a été éditée dans un livre collectif signé Mathieu Aron, des très grandes plaidoiries dans l'histoire des avocats de France, mais je vous laisse quand même réfléchir à celle que vous préférez mentionner.
Moi, je commence à travailler à mes plaidoiries aux premières minutes du procès. C'est-à-dire que dès lors que l'audience s'ouvre, je commence tout de suite à prendre des notes parce que je suis tout entière tendue vers cet instant où il me faudra effectivement me lever et plaider. Et cet instant est une mise en abîme et donc je le redoute autant que je l'attends et j'écris mes plaidoiries. Ça m'empêche pas, une fois que je suis debout et que je plaide, de m'en échapper un petit peu, mais elle est là, elle est posée sur le pupitre et je peux y retourner dès lors que j'en ai besoin. J'essaye de donner des mots à celle que je défends, à celle dont je porte la parole et donc finalement de l'incarner. Et donc à chaque fois, j'écris une histoire différente parce que les histoires sont singulières et j'essaie de coller au plus près de celle qui est à mes côtés ou derrière moi et voilà, de me glisser comme ça dans ces mots à elle. Donc oui, il y a des plaidoiries où j'ai ce sentiment d'être au juste endroit, où les choses sont fluides, où ça se déroule tout seul et je constate que voilà, ça produit un effet sur celles et ceux auxquels je m'adresse. Peut-être vous parlez des plaidoiries que je fais pour les femmes qui ne sont plus là. Celle-là, elle me marque particulièrement parce que je viens donner un souffle à celles qui ont disparu. Dire que c'est un souffle de vie serait présomptueux, mais j'incarne l'absente du procès, celle qui a été tuée, victime de féminicide. Et là, mon objectif est de la réincarner et de venir la remettre au centre de ce procès, le procès de son meurtrier. C'est un exercice quand même extrêmement étrange, extrêmement particulier, où pendant des mois, des semaines et des heures avant, je suis partie à la rencontre de celle qui est morte et que je défends.
Dans ces cas-là, c'est la famille qui demande justice ?
Dans ces cas-là, c'est la famille. Ça peut être les parents, ça peut être les frères et sœurs, les enfants parfois. Et je me rappelle de la plaidoirie que j'ai faite pour Barbara, à Sainte, dans un procès particulièrement difficile, où la mère de Barbara était venue, Michel, était venue me voir avec cette demande tout à fait spécifique. Elle avait son propre avocat, Michel, et elle m'a demandé de plaider pour Barbara. Et donc, il m'a fallu, comme ça, partir à la rencontre de cette femme qui avait été sauvagement assassinée, et porter ses mots, et dire qui elle était, quels étaient ses goûts, quelle avait été son existence, quel avait été son parcours de vie, qu'est-ce qu'elle aimait faire, qu'est-ce qu'elle aimait écouter comme musique. Et voilà, je récolte tous ces matériaux et j'essaye d'en faire un concentré au moment de la plaidoirie. Et j'ai presque l'impression de la connaître à ce moment-là. Et voilà, c'est un exercice très singulier, très étrange et que j'affectionne beaucoup. Et c'est une charge qui est très lourde. Donc, ces plaidoiries faites pour les femmes qui ne sont plus là sont des plaidoiries qui me marquent nécessairement parce que il y a une prise de risque et j'ai toujours cette angoisse de ne pas être à la hauteur de la mission qui m'est confiée par les parents et de ne pas être au rendez-vous avec celles qui ne sont plus là. Voilà, c'est des plaidoiries difficiles, mais exigeantes, difficiles, mais que je prends un grand plaisir à faire.
En dehors de ces cas extrêmes, puisque vous défendez des femmes qui ne sont plus là pour être défendue, quel genre de femmes viennent vous voir, Anne Bouillon? Est-ce que on peut établir une typologie ou est-ce que tous tous les cas se présentent à vous ?
Il n'y a aucune typologie. Il y a toutes les femmes de tous les âges viennent me voir. Et moi, c'est quelque chose qui ne lasse pas de me surprendre à quel point ces femmes sont diverses. Elles viennent de tous les horizons, de tous les milieux. Elles parlent toutes les langues. Il y a même des fois où on ne parle pas la même langue. On se sert d'outils de traduction. Vous savez, on prend nos téléphones et on se sert de Google Trad. Je me rappelle d'une femme syrienne que j'ai défendue et qui ne parlait pas un mot de français. Et il nous fallait communiquer comme ça. J'ai défendu une jeune femme d'origine turque aussi. Et il nous fallait trouver des mots, mais dans le sens concret du terme, pour pouvoir nous comprendre et nous entendre. Mais vraiment, toutes ces femmes n'ont pas grand-chose en commun, finalement, si ce n'est le fait d'être des femmes.
Comment ont-elles entendu parler de vous, du cabinet ? Par quel biais elles arrivent ?
Elles arrivent de tous les côtés. Elles arrivent par des assistantes sociales, elles arrivent par le bouche à oreille, elles arrivent parce qu'elles ont entendu parler de notre travail, elles arrivent parce qu'elles savent que là, elles seront entendues et défendues. Voilà, elles arrivent vraiment dans un flot continu de femmes qui me demandent d'intervenir et de les aider. Malheureusement, je peux pas toutes les défendre. C'est pas possible pour des raisons strictement matérielles. Mais ce qui me surprend, c'est que c'est un flot qui est continu. Ça ne s'arrête pas.
Je disais que vous traitiez plus d'une centaine de dossiers par an, ce qui peut paraître fou. Alors vous avez votre cabinet, hein, vous n'êtes pas toute seule, Anne Bouillon, aujourd'hui, mais je dis une centaine et en même temps ça ramène tout de suite à des chiffres. Et quand on parle des violences faites aux femmes, on est souvent abattu, accablé par des chiffres, par des statistiques. Vous, votre travail consiste à redonner des histoires singulières, précisément, à porter ces histoires singulières au milieu d'une masse de chiffres.
Ben c'est les deux, en fait. C'est-à-dire que c'est tout à la fois prendre la mesure du phénomène social dans son ampleur et dans le fait qu'il il démontre qu'on évolue dans un système structuré autour de la question des violences subies par les femmes. Et je m'appuie sur ces chiffres-là et j'essaie de comprendre comment est-ce que notre système fonctionne et pourquoi est-ce qu'il produit de la violence. Et pourquoi est-ce que la violence est non seulement la conséquence, mais c'est également la garantie de la perpétuation du système. C'est quelque chose que j'ai constaté au fil de l'eau, ça. Sans violence, le système patriarcal, le système de domination s'effondre. Parce que, évidemment, la violence est autorisée par un système de domination. Dès lors qu'un genre domine l'autre, un sexe domine l'autre, alors il n'est plus qu'une question de curseur. Où est-ce que l'on vient poser les jalons et la violence devient un recours possible à exercer, mais c'est également une condition nécessaire pour le maintien de ce système-là. Et donc mon travail, c'est aussi de mettre ça en lumière pour pouvoir le combattre et proposer des alternatives, mais peut-être en parlerons-nous ultérieurement. Mais c'est donc analyser les chiffres, et puis encore une fois, je vous parle de flot continu de femmes, ce qui veut dire que, à Nantes, mais partout en France, ailleurs et partout dans le monde, finalement, c'est un trait commun entre les femmes. Vous m'interrogez sur qu'est-ce qui les relie entre elles, c'est ça, le dénominateur commun. Et puis, c'est effectivement incarner des situations qui sont individuelles, qui sont singulières, avec des objectifs qui sont pas forcément les mêmes, et qui vont de juste le fait d'être entendu, considéré, regardé, jusqu'au fait d'être protégé et réparé.
C'est ce qu'elles attendent de vous quand elles viennent là, elles ? D'être entendue et d'être protégée.
Vous savez, je rencontre des femmes qui, même ça, n'y croient plus, en fait. C'est-à-dire qu'elles ont tellement fait l'expérience de la dureté de leur condition de femme qui vient dénoncer des violences. Elles se sont fait renvoyer dans les cordes, elles se sont fait renvoyer à leur propre responsabilité. Il y a tellement d'espace pour la discussion autour d'un partage de responsabilité. À une femme qui a subi un viol, la première question que l'on posera, ou presque, c'est... Comment est-ce qu'elle était habillée ? Est-ce qu'elle avait picolé ? Est-ce qu'elle l'a pas finalement un peu cherché ? C'est même le titre d'un ouvrage publié par Quenella Jolicoz, qui est magistrate, qui a publié ce bouquin « Elle l'a bien cherché ». Donc cette idée de ce qu'il y ait une part de co-responsabilité de la victime, c'est une idée qui est très incarnée et très ancrée. Et donc elles en ont fait l'expérience, elles l'ont même intériorisée. pour certaines. C'est-à-dire qu'elles peuvent me dire aussi, mais si j'avais pas agi comme ci ou si j'avais pas agi comme ça, peut-être que ça se serait pas passé. Il dit que finalement il m'a cogné parce que je l'ai énervé, mais c'est vrai, je l'ai énervé. Il y en a une qui me disait qu'elle avait été battue comme plâtre dans un véhicule, en voiture, alors que son conjoint conduisait, mais que finalement elle avait fait tomber son portable et qu'elle aurait dû être plus prudente. Vous voyez, cette idée d'intérioriser une responsabilité pour ce qu'on vient subir, c'est une idée que les femmes portent en elles et c'est une idée que nous portons en nous collectivement. Moi, je me bats contre ça et la première chose que je leur dis, c'est qu'elles n'y sont pour rien. Et quand je leur dis ça, c'est tellement fréquent qu'elles s'effondrent et qu'elles se... je suis même émue en vous le disant, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de... du soulagement ou de la révélation, c'est un bien grand mot, mais en fait, c'est comme un des voiles qui se déchire et on va remettre les choses en perspective, on va remettre l'église au milieu du village, hein, madame. Si vous avez reçu des baffes, le fait que vous ayez fait tomber le portable de votre conjoint n'est évidemment en aucun cas une justification. Vous voyez, donc, ce qu'elles attendent, c'est, et en tout cas, moi, ce à quoi je m'évertue, c'est de remettre les choses à leur bon endroit et évidemment de leur donner l'écoute qui est nécessaire à leur compréhension.
Qu'est-ce qui vous marque le plus chez ces femmes que vous défendez ?
Leur courage. On n'imagine pas à quel point c'est dur de sortir des violences. On n'imagine pas à quel point les violences, c'est un système qui déchiquette, qui détruit, qui décompose, qui vient comme ça vous morceler en petits morceaux et qui fait que vous n'êtes plus celle que vous auriez dû être et que vous êtes autre, vous vivez en absurdie. Plus rien n'a de sens. Vous subissez là où vous devriez être en sécurité chez vous le risque le plus accru. Vous y subissez les violences parfois les plus innommables par celui-là même qui est censé être votre objet d'affection et votre compagnon. Ça n'a aucun sens que de vivre ça. Et encore une fois, ça rend les choses totalement absurdes avec des phénomènes d'habituation aux violences, des femmes qui s'éteignent, qui vivent le mot est pas de moi, mais qui vivent des heures grises, qui finalement ne le réalisent même plus, et c'est l'extérieur qui devient un danger. C'est-à-dire que c'est le fait de ne plus savoir où est leur agresseur, le fait de ne plus savoir ce qu'il potentiellement va pouvoir faire et leur arriver. J'ai des femmes qui me disent « je préfère rester à la maison parce que moi je sais. Je sais ce qui va se passer, je le connais, je sais quand il va rentrer en crise, je sais quand les coups vont pleuvoir, je sais quand les enfants risquent de subir des coups, je peux être là pour protéger mes enfants le cas échéant. » Et donc, ce saut dans le vide qui est la sortie des violences, parce que à partir de ce moment-là, on ne sait plus où est-ce qu'on va vivre, on ne sait plus où est-ce qu'on va habiter, on ne sait plus où est-ce qu'on va dormir, on ne sait plus comment on va travailler, on ne sait plus comment on va garder ses enfants. C'est un véritable saut dans l'inconnu et puis on ne sait pas ce qui va advenir de son agresseur. Combien de femmes vont déposer plainte et se livrent auprès des services de police et puis après disent « Alors, vous allez les chercher quand ?»« Ah ben madame, on ne sait pas en fait. » »« Oui, mais alors il va se passer quoi ?»« Ah ben madame, on ne sait pas. Mais moi, je dois retourner chez moi ?»« Ah ben vous faites comme vous voulez. » Vous imaginez, vous venez de dénoncer celui-là même qui vous maltraite, qui vous viole, qui vous frappe, qui vous insécurise et vous n'avez pas de filet de sécurité, vous ne savez pas où est-ce que vous allez même physiquement pouvoir trouver un abri. Quand bien même vous le faites, c'est vertigineux en fait. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait tout un accompagnement social. C'est pour ça qu'il faut, quand on dit il nous faut des places d'hébergement, il nous faut de l'accompagnement, il nous faut de la protection, c'est pas un vain mot parce que les femmes qui quittent leur conjoint violent, elles risquent leur vie. Les féminicides dont nous parlions à l'instant, nous avons d'un point de vue criminologique repéré que la rupture est la zone de tous les dangers.
Alors vous disiez que leur courage était ce qui vous marquait le plus. Est-ce qu'il y a eu des histoires dont vous avez eu du mal à vous remettre, vous ?
Oui, y a plein d'histoires où j'ai été profondément émue, où j'ai été profondément touchée. En fait, il y a des situations où j'ai peur pour les femmes que j'accompagne. Dans le prolongement de ce qu'on disait, quand elles repartent vers leur conjoint violent, je pense à elles, j'ai peur qu'il leur arrive quelque chose, j'ai peur d'avoir raté quelque chose et de ne pas avoir mis en place tout ce que j'aurais dû mettre pour les protéger. Donc je me sens responsable, bien sûr, mais il y en a plein qui me marquent. Vous parliez de cette plaidoirie à propos de Stéphanie, qui a subi un viol de la part du père de son fils sous la menace d'un couteau, alors que son petit gamin l'attendait dans la voiture garée devant la maison où elle était venue le récupérer. Voilà, comment dire, la justesse de cette femme, la précision qu'elle avait dans la capacité à comprendre les choses, à comprendre que si elle avait subi un viol, c'est parce qu'il n'avait pas supporté qu'elle lui échappe. Le courage qu'elle avait eu à lui échapper, elle était partie par la fenêtre de la salle de bain. Mais physiquement, hein, elle avait sauté pour partir et elle était partie. Elle avait trouvé refuge chez sa tante. Et puis, lui n'avait pas supporté qu'elle parte. Et quand il l'avait recroisée, il lui a fait subir un viol. Cette jeune femme, que j'ai recroisée il n'y a pas très longtemps dans un supermarché, m'a profondément marquée. Pourquoi ? Parce que, voilà, il y a des histoires d'humain à humain, de femme à femme. On est dans au cœur de l'humanité, je crois. Et on est au cœur de l'inhumanité, parfois. Et tout ça est extrêmement prenant. Et lorsque je l'ai recroisée, alors qu'on a passé beaucoup de temps ensemble, hein, je ne l'ai pas reconnue. J'ai même mis un petit temps à la reconnaître parce que ces femmes que j'accompagne, quand je les vois plus tard, elles se sont rallumées. C'est incroyable ce que ça fait sur les physiques de subir des violences. Moi, je rencontre des femmes qui sont recroquevillées sur elles-mêmes, qui ne se maquillent plus, qui ont peur et qui, quand elles sortent des violences et quand un travail thérapeutique, d'accompagnement est fait, elles se retrouvent elles-mêmes. Elles se reconstruisent, mais presque physiquement elles-mêmes. Elles s'éclairent. Et Stéphanie, elle était lumineuse.
Vous les voyez comme des victimes ou des victimes de quelque chose ?
Le statut de victime n'est désirable en aucun cas. C'est-à-dire que je réfute cette idée qui fait un peu floresse actuellement, comme quoi le statut de victime serait le nec plus ultra de ce qu'il faudrait être pour avoir une identité sociale. Il y a comme ça quelques penseurs ou philosophes qui développent cette idée que maintenant, pour exister, y compris médiatiquement, il faut être victime de quelqu'un ou de quelque chose. Moi, les femmes que je rencontre, elles ont rien demandé, et ce mot-là leur fait violence aussi. Et parfois, elles le réfutent, et elles ne veulent pas être identifiées à des victimes. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut être victime, mais ne pas avoir une posture victimaire. Et c'est deux choses totalement différentes. Donc, bien sûr que ce sont des victimes dans la mesure où elles subissent et qu'elles n'ont aucune part de responsabilité dans ce qu'elles subissent, mais je n'en connais aucune qui vient se complaire dans un soi-disant statut de victime qui serait la dernière chose à la mode à avoir.
Vous les croyez toutes ? Est-ce que, comme vous disiez que dans l'émission précédente, que la première étape de votre travail consiste à écouter. Est-ce que écouter, c'est nécessairement croire ?
Bien sûr. Et pourquoi pas ? Qu'est-ce qui fait que je pourrais ne pas les croire ? Moi, je suis avocate, hein. Si vous venez me voir et que vous asseyez en face de moi et que vous me racontez votre histoire, au nom de quoi vous dirais-je que j'ai un doute par rapport à la réalité de ce que vous me dites ? J'ai aucune raison de croire a priori que cette parole est une parole fausse. Ça n'a pas de sens que de ne pas les croire. Ce que je dis, c'est que cette parole-là, que moi je crois, n'est pas une preuve sur le plan pénal. C'est une parole qui dénonce. Et je ne revendique pas que ça devienne une preuve sur le plan pénal. Et je souhaite que, parce que je souhaite que la justice fasse œuvre de justice, on en parlait, eh bien cette parole, elle soit soumise au contradictoire, qu'une enquête ait lieu, à charge et à décharge, pour corroborer ou venir infirmer cette parole-là. Mais a priori, j'ai absolument aucune raison de pas les croire, bien sûr.
À aucun moment, jamais dans votre carrière, Anne Bouillon, vous vous êtes trompée sur quelqu'un, ou vous vous êtes fait embobiner, ou il y a eu une tromperie sur la personne.
Moi, ce que j'ai pu observer dans ma carrière, c'est que la parole avait été mal dirigée. J'ai rencontré des femmes qui avaient subi des violences, mais qui désignaient de faux coupables. Ça existe. Je pense à une situation particulière. Hein, je suis intervenue dans le procès de Loïc Séché, qui est un ouvrier agricole dans la région nantaise, qui a été condamné pour le viol qu'il aurait fait subir à une jeune femme, qu'il accusait à deux reprises, hein, à Nantes et à Rennes. Sa peine a été confirmée. Cette jeune femme, des années plus tard, s'est rétractée en disant qu'elle avait effectivement subi un viol, mais que ce n'était pas Loïc Séché le coupable et que c'était quelqu'un d'autre. Et j'ai eu la même situation d'une autre jeune femme qui avait subi un viol par son frère et qui avait accusé le petit caïd du quartier parce que c'était plus facile. Donc ce que ça m'a conduit à considérer, c'est non pas qu'elle mentait, même si elle ne disent pas la vérité, c'est que leur parole n'avait pas été accueillis et traités avec les précautions, c'est ce dont on parlait à l'instant, qui auraient dû être mises en œuvre au moment où on leur a mis un récit dans la bouche, on leur a pas donné l'occasion de pouvoir s'en dédire. Et moi, je le dis à mes clientes, ça aussi. Hein. Si ce que vous avez dit, c'est pas exactement ça, vous avez le droit de faire marche arrière. Les juges leur posent la question, madame, est-ce que vous confirmez ce que vous avez pu dire précédemment? Et c'est très important de leur laisser cette latitude-là, de comprendre que il est parfois extrêmement difficile de venir dire la totalité ou la réalité complète de ce qu'on subit parfois. La plupart du temps, en fait, c'est que la parole, elle se libère petit à petit, de manière graduée. Il faut du temps. Et qu'elles peuvent dire « j'ai subi des violences », mais ne pas dire « j'ai subi un viol ». Et alors, quand elles viennent dire à un moment « en fait, c'était un viol », alors là, on leur dit « mais alors, madame, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas dit immédiatement si vous aviez subi un viol ?» Ben parce qu'en fait, parler à un policier que je ne connais pas de quelque chose que j'ai moi-même du mal à conscientiser et à me dire à moi-même, ce n'est pas extrêmement facile, voyez-vous.
Elles ne mettent pas toujours le mot « viol » sur ce qui leur est arrivé, vous voulez dire ?
Viol, c'est un mot qui fait violence. Viol, c'est un mot qui fait violence aux violeurs, qui réfutent tellement souvent cette condition, même lorsqu'ils reconnaissent avoir forcé à des rapports sexuels, et à la victime qui aura bien du mal à se dire qu'elle a été violée.
Et quand c'est son conjoint, c'est peut-être encore plus difficile à dire ?
Bien sûr, parce que tout ça est travesti, tout ça est enrobé de je pense à la notion de devoir conjugal, hein, cette sacro-sainte institution, comme quoi le corps des femmes serait assujetti à une obligation de rapport sexuel. Eh bien, c'est profondément et culturellement ancré en nombre d'entre nous, cette idée, et elles l'ont intégrée. Il y a des femmes qui me disent... Non, je subis pas de viol, mais j'en ai vraiment marre de me soumettre au devoir conjugal. Et donc, il faut venir comme ça décortiquer cette idée-là et voir ce que ça recouvre. Et c'est pas facile de se dire qu'en fait, ce qu'on subit, c'est pas du devoir conjugal ou une contrainte comme débitrice d'une obligation de sexe, mais en fait, c'est un viol.
Qu'est-ce que MeToo a changé ?
Tout. Tout, mais j'ai eu du mal à le voir.
Du côté des femmes ou du côté de votre métier d'avocate ?
Les deux. Moi, ça fait longtemps, hein, Stéphane, les femmes. MeToo, c'est 2017. Ça faisait déjà de nombreuses années que j'étais au travail sur ces questions-là. Et j'ai pas pris la mesure tout de suite de ce que ça allait changer. Je me rappelle avoir assisté à une conférence de Geneviève Fraisse qui disait, l'historienne qui disait, mais ça va tout changer, et philosophe, ça va tout changer et tout. Et je percevais pas ce qu'elle voulait dire. Je le perçois évidemment avec beaucoup plus d'acuité aujourd'hui. Ça a tout changé parce que ça nous a permis de nous doter de mots, de vocabulaire, d'une grammaire qui a été permise après parce qu'il n'était plus possible de censurer la parole des femmes, y compris de celles qui travaillent à leur côté, donc moi. Ça m'a donné, moi, une légitimité ou, comment dire, un espace de parole dans les prétoires que j'avais pas avant. Lorsque j'arrivais dans les prétoires avant MeToo en proposant comme ça des analyses un peu systémiques, c'était compliqué de faire ça. Ça allait beaucoup moins depuis MeToo. Et puis, la grammaire dont je vous parlais, c'est celle qui vient nous doter de mots comme état de sidération, stress post-traumatique, féminicide, contrôle coercitif, emprise. Vous voyez, tous ces mots que nous n'avions pas avant et qui nous empêchaient d'approcher au plus près de la réalité de ce que vivent les femmes. On pouvait se dire, mais enfin, si une femme reste auprès de son mari pendant tant d'années sans partir, peut-être que finalement, c'est qu'elle y trouve son compte. Et boum, on a compris qu'en fait, l'emprise existait. Et on a compris ce que ça recouvrait comme mécanisme psychique, sociaux. Et quelle était cette réalité-là qui fait que lorsque on essaye de partir, l'élastique vous y ramène aussi sec. Eh bien, ces mots-là qu'on a glanés et qu'on a acquis après MeToo, ils sont précieux et notre vocabulaire ne cesse de s'enrichir. MeToo, ça a été la libération de la parole, mais ça a été la conquête des mots, en tout cas pour moi. Et en ça, ça a tout changé. Notre appréhension des violences faites aux femmes change. Notre perception de cette réalité change. Les combats féministes continuent et nous permettent comme ça, d'avancer sur la conquête du terrain de l'égalité.
Des mots, vous dites, sans doute des livres ont-ils compté aussi dans cette période ? Le consentement, l'emprise, jusqu'à la garde ? L'amour et les forêts, c'est des choses qui ont compté, c'est des choses que vous voyez, que vous regardez, où vous dites non, je vais quand même pas en plus de mes journées lire des livres, aller voir des films qui traitent de cette question. Est-ce que autour de vous, aussi bien les collègues que les femmes que vous rencontrez, c'est ça aussi, ça fait partie d'une culture qui commence à prendre dans la société et qui compte pour les personnes que vous rencontrez?
Ah mais c'est déterminant, hein. Les voix fortes, les grandes voix, alors qui écrivent et qui disent et qui dénoncent. Adèle Haenel pour moi a été déterminante, hein. Je me rappelle très bien de l'avoir entendue au micro de Marine Turquie, et ça a été une révélation, surtout qu'elle elle parlait à la justice, hein, et elle disait la justice nous ignore, on ignore la justice, et donc c'était vraiment un appel direct auquel d'ailleurs modestement j'ai répondu en lui écrivant une tribune. Mais évidemment Vanessa Springora, évidemment Camille Kouchner, évidemment toutes ces femmes qui portent, et puis dans le sport, je pense à Sarah Abitbol qui est venue expliquer ce qu'elle avait subi de la part de son entraîneur pendant des années, et puis dans le cinéma, toutes ces voix fortes là, elles sont absolument nécessaires pour que la masse des femmes, silencieuses ou silenciées, se sentent légitimes à elles aussi, dans leur sillage, libérer une parole. Sans elles, alors il est bien plus difficile d'être entendu.
Je vais revenir à vous pour terminer cet épisode, Anne Bouillon. On vous a jamais vraiment quitté, mais vous personnellement, est-ce que votre travail a changé quelque chose dans votre rapport à votre vision des hommes, par exemple? À force d'entendre, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes victimes de violences de la part d'hommes que l'inverse, même s'il existe des hommes victimes de violences de la part de femmes. Donc est-ce que ça a changé quelque chose dans votre rapport à votre vision des hommes, dans vos rapports sociaux, dans vos rapports amicaux, dans votre vie privée? Est-ce que ça a changé quelque chose?
Non, je crois que ça change tout, mais ça me rend pas ni aigrie, ni désabusée, ni misandre, mais ça change tout. Je vois clair dans... je vois clair, c'est présomptueux. Il me semble mieux percevoir ce que nos postures, vous m'interrogez sur ma vie privée, romantique, impliquent en termes de domination. Je vois bien comment est-ce que l'hétérosexualité, le couple hétérosexuel peut être en fait un cheval de Troie pour que viennent s'y nicher l'emprise et la domination. Et donc, moi, ce que ça me renvoie, c'est... comment est-ce qu'on se départit et comment est-ce qu'on se défait de ces logiques-là, et comment est-ce qu'on s'octroie une autre manière d'être et la liberté d'être différemment autour de l'égalité. Et moi, j'ai évolué comme femme à cet endroit. Je crois que mon mari a beaucoup évolué aussi comme homme à cet endroit. Je vois comment est-ce qu'on élève nos garçons et nos filles et comment est-ce que ça évolue. En fait, moi, je ne me sens pas en colère contre des hommes. Je me sens très en colère contre le système et contre le fait qu'on ne fasse rien pour changer les choses. Parce que si on ne fait rien pour changer les choses, et si les hommes ne font rien pour changer les choses, alors à qui profite le crime? À qui profite le crime? À qui profite ce système de domination et de violence qui ne cesse d'être perpétré à l'endroit des femmes? Mon attente à l'endroit des hommes, c'est qu'ils fassent ce constat clair qu'ils sont partie prenante à ce système de domination et qu'ils s'engagent à le changer.
On laisse les choses en suspens jusqu'à la prochaine émission, Anne Bouillon, puisque vous dites on ne fait rien, on va voir en quoi on ne fait rien, qu'est-ce qu'on peut faire, comment le droit et la justice répondent aux attentes des femmes et à votre attente à vous. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue avec Anne Bouillon, réalisation Anne Pérez-Franchini, prise de son Geoffrey Marianne, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brou est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.